Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Guillaume Ménard, Cédric Fuentes, Louis Drillon, Arjuna Andrade et Léa Sabourin. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Anthony Thomasson.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Nous entamons aujourd'hui une nouvelle série consacrée à l'économie de l'électricité, ce fluide courant à travers les veines de la Terre ou errant dans les espaces en fulgurant zigzag, selon les mots du romancier Albert Robida. Cette semaine, nous allons retracer l'histoire d'une conquête, celle de la fée électricité, et examiner le marché de la voiture électrique et ses limites écologiques, avant d'interroger la place de l'électricité dans le mix énergétique français. Mais d'abord, c'est la question du prix qui va nous intéresser. La libéralisation du marché de l'électricité pour les particuliers n'a finalement pas eu les effets escomptés. Non seulement les prix n'ont pas baissé, mais une nouvelle hausse de près de 6% a été mise en place début juin. Alors comment expliquer cette augmentation continue ? Quelle place faut-il accorder aux nouveaux acteurs du privé ? Et quelles seraient les conséquences d'un démantèlement d'EDF ? Voilà les questions qui vont nous occuper jusqu'à 15h. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons explorer le marché de l'électricité en compagnie de Jacques Percebois, professeur émérite à l'Université de Montpellier, directeur du Centre de recherche en économie et droit de l'énergie, le CREDEN, et chercheur associé à la chaire économie du climat à Paris Dauphine. En fin d'émission, Arjuna Andrade sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho. Bonjour Jacques Percebois.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors ce qu'il faut commencer peut-être par expliquer, c'est que l'électricité, Jacques Percebois, c'est à la fois une marchandise et un service public qui dépend donc des règles du marché et des décisions publiques.
Absolument. Alors c'est une marchandise, mais c'est une marchandise déjà particulière et en même temps c'est un service public. Alors c'est une marchandise particulière parce qu'elle est distribuée à travers un réseau. On la produit dans des centrales, on la transporte à travers un réseau à haute tension, on la distribue à travers un réseau à moyenne et basse tension jusqu'au consommateur final. Donc déjà il y a la contrainte du réseau. Ensuite, c'est une marchandise particulière en ce sens qu'elle n'est pas stockable à grande échelle. On ne sait pas stocker à grande échelle l'électricité. On sait la stocker dans des batteries, ça coûte très cher. Demain, on saura probablement le faire dans de meilleures conditions. On sait la stocker en la transformant, par exemple, en hydrogène.
Mais il ne peut pas y avoir de file d'attente sur le réseau.
Mais alors, à la différence, par exemple, avec les télécoms, vous voyez, c'est un bon exemple. Les télécoms, c'est une industrie de réseau. Il y a un réseau, mais là, il y a des files d'attente possibles. L'électricité, il faut que la quantité injectée en amont soit strictement égale à la quantité soutirée en aval, aux pertes en ligne près, parce qu'il y a quand même quelques pertes en ligne. Donc, si vous voulez, à la seconde près, c'est une contrainte technique, physique, qui est, je dirais, un élément important à prendre en compte.
C'est cela qui explique, Jacques Percebois, que c'est qu'il y a une très forte volatilité du prix de l'électricité.
Absolument. C'est-à-dire que comme l'électricité, elle est produite à un instant T et consommée au même moment, si pour une raison quelconque, par exemple il fait froid en hiver le soir à 19h, si la demande augmente plus que prévu, il faut instantanément trouver des solutions. Et à ce moment-là, il faut payer très cher l'électricité supplémentaire parce qu'il faut mettre en place, il faut appeler des centrales qui coûtent très cher dans la mesure où on les garde que quelques heures par an. Donc, c'est une marchandise, mais déjà particulière. Alors, on sait stocker l'eau, on ne sait pas stocker l'électricité, mais on sait contourner un peu la difficulté par des barrages. Si vous stockez de l'eau, on sait à ce moment-là turbiner l'eau pour produire l'électricité. Alors, en même temps, c'est un service public. Et ça a toujours été un service public. Alors, de fait, si vous voulez, ça l'était déjà avant la Deuxième Guerre mondiale. On voit bien que c'est un produit spécifique. Une coupure d'électricité, c'est plus grave qu'une pénurie de beurre. Hein. Imaginez la France sans électricité. Regardez tous les besoins qui sont satisfaits par l'électricité.
Il y a à la fois les particuliers, évidemment les entreprises,
bien sûr,
les commerces.
Le transport aussi, les TGV, enfin je veux dire, un blackout électrique sur le plan économique, c'est absolument catastrophique. Heureusement, ça n'arrive pas souvent. Alors il peut y avoir des blackouts régionaux, locaux, pour des raisons liées, je dirais, au vent ou à des contraintes extérieures. Mais un blackout généralisé, heureusement, ça n'arrive pas souvent dans les pays industrialisés. Donc c'est un service public. La loi de 2000, d'ailleurs, la loi de 46 l'avait quasiment dit. La loi de 2000 l'a rappelé de façon explicite. Et donc, du fait que c'est un service public, l'État ne peut pas s'en désintéresser. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'ouverture à la concurrence, qu'on appelle la libéralisation à la fin des années 90, eh bien, l'électricité peut être vendue sur un marché. On a une partie de l'électricité qui est vendue sur un marché, mais en même temps, l'État est obligé d'intervenir parce que il y a cet aspect service public.
Alors on va détailler évidemment tout cela, Jacques Percebois, mais d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, il y a des liens très forts entre le marché de l'électricité et la puissance publique à cause des investissements particulièrement importants dans les équipements. C'est ce qui explique la nationalisation des entreprises d'électricité privée, justement en 1946, qui est aussi la date de la création d'EDF.
Absolument. Pour la reconstruction de l'économie française, tout le monde avait compris, c'est le programme, je dirais, du Conseil national de la résistance, qu'il fallait à la libération, je dirais, mettre en place des services publics, des entreprises publiques, pour justement s'occuper de ces services publics importants liés à la reconstruction. On a nationalisé, il y avait à l'époque 1750 entreprises d'électricité. On l'oublie souvent en France, il y avait beaucoup de petites entreprises, des moyennes, il y avait des régies municipales déjà, il y avait quelques entreprises publiques. Et donc le législateur a décidé en avril 46 de créer une seule entité qu'on a appelée Électricité de France, qui d'ailleurs n'était pas une entreprise au départ, c'était un établissement public à caractère industriel et commercial. Donc si vous voulez, c'est quasiment une administration. Bon, c'est devenu par la suite une entreprise. On a laissé subsister un petit secteur privé, et on a laissé subsister bien évidemment ce qui était public, c'est-à-dire les régies. Et donc cette entreprise avait un monopole intégral de production, transport, distribution, fourniture de l'électricité, et elle s'est très bien acquittée de son rôle, puisqu'elle a permis la reconstruction. Faut jamais oublier qu'on a fait des investissements colossaux, je dirais, au niveau des centrales à charbon pour les remettre en activité. Puis ensuite, le grand programme hydraulique dans les années 50-60, c'est la construction des grands barrages dans les Alpes et dans les Pyrénées. Et puis ensuite, le pétrole est arrivé bon marché, donc on a fait beaucoup de centrales au fioul. Et au moment du choc pétrolier, on a considéré que pour des raisons stratégiques, il fallait abandonner le pétrole au profit du nucléaire.
Et l'idée, c'était, Jacques Percebois, d'assurer pour la France son indépendance énergétique. L'électricité, c'est une énergie qui s'exporte assez peu, contrairement au pétrole et au gaz. Donc il y a vraiment cette idée de produire sa propre énergie.
Absolument. Si vous voulez, on peut importer, la France importe la totalité du pétrole qu'elle consomme, la totalité du gaz qu'elle consomme aujourd'hui, la totalité du charbon, parce que ça se stocke. En revanche, l'électricité, ça ne se stocke pas à grande échelle. Par conséquent, chaque pays produit son électricité. Plus de la moitié du pétrole produit dans le monde est vendu sur le marché international. C'est à peu près 20-25% pour le gaz et pas loin de 20% pour le charbon. C'est 1,5% pour l'électricité. Donc il y a des échanges, mais des échanges aux frontières. La France avec les pays limitrophes de l'Europe. D'ailleurs, nous sommes exportateurs nets plutôt qu'importateurs nets. Mais c'est un produit éminemment stratégique.
Et puis, peu à peu, dans les années 50 puis 60, la France va commencer à investir davantage dans le nucléaire.
En France, comme en beaucoup de pays, la consommation d'électricité double à peu près tous les 10 ans. Les possibilités d'extension des centrales thermiques et hydrauliques sont limitées, mais l'énergie nucléaire vient à point nommé pour compléter les énergies traditionnelles. Dès 1952, la construction des premiers réacteurs nucléaires producteurs d'énergie a été entreprise à Marcoule. Ces réacteurs sont à uranium naturel et graphite. Un autre pas en avant, encore plus important, sera fait avec EDF 3, dont les travaux ont débuté en 1961. La France s'est donc résolument engagée dans le développement de l'énergie nucléaire pour la production d'électricité. Plusieurs années de fonctionnement des installations de Marcoule ont confirmé l'intérêt de la filière suivie. Le réseau national disposera à Chinon dès 1965-66 d'une production annuelle d'électricité d'environ 4 milliards de kilowatt-heure. Et en 1968, lorsqu'EDF 4 fonctionnera, le prix de l'électricité nucléaire sera inférieur à celui de l'électricité thermique. Les centrales de Chinon représentent donc la seconde étape au cours de laquelle sera résolu le problème de la compétition des prix de revient entre centrales thermiques et nucléaires. Et toutes ces coupoles sont le symbole de l'avenir prodigieux que nous promet l'atome.
Voilà une archive de l'INA datant de 1964. La France choisit donc de développer le nucléaire pour moins dépendre du pétrole, Jacques Percebois.
À l'époque, c'était déjà un peu ça, mais à l'époque, c'était surtout parce qu'on était, je dirais, très bon dans le domaine du nucléaire. Il faut savoir que sur le plan scientifique, les Français étaient parmi les premiers dans le domaine de la recherche nucléaire. Simplement, là, on parle de la filière française, UNGG, il l'a dit, uranium naturel, graphite gaz. On s'est aperçu que pour des raisons économiques, à partir des années 70, on a changé de filière. On est passé à la filière américaine Westinghouse. Et donc, à ce moment-là, on a acheté la licence. licence Westinghouse aux Américains et on l'a francisé. Donc les réacteurs actuels, ce sont des réacteurs, il y en a 58, qui sont des réacteurs d'une nouvelle filière. Mmh. L'avantage de cette nouvelle filière, c'est que les réacteurs sont plus gros et, je dirais, étaient plus facilement exportables. La principale raison, c'est qu'on voulait exporter du nucléaire et donc il fallait choisir cette filière.
Et cela va permettre un développement considérable puisque en 1974, au moment du premier choc pétrolier, le nucléaire représentait 8% de la production d'électricité en France, contre 75% à peu près aujourd'hui.
Alors c'est un peu moins, on est tombé de 75 à 72, mais c'est vrai qu'on a construit 58 réacteurs en 20 ans, ce qui est assez exceptionnel. Il y a une période où on construisait 5 à 6 réacteurs, c'était des réacteurs de 900 mégawatts, plus petits que l'EPR, mais on savait construire de façon standardisée plusieurs réacteurs par an. 58 réacteurs en 20 ans. C'est assez remarquable, si vous voulez. Alors ça, c'est suite au choc pétrolier, c'est ce qu'on appelle le plan Messmer de 1974, qui a été signé par Georges Pompidou, très peu de temps avant sa mort, puisque c'est en mars 1974.
Et alors, les années passent, et selon le traité de Rome, déjà de 1957, donc quelques années plus tôt, la politique énergétique est de la compétence exclusive des États, et non de Bruxelles. En revanche, Bruxelles est chargée du respect de la concurrence dans l'Union européenne. C'est par ce biais que la Commission européenne va imposer aux États une libéralisation de leur marché de l'électricité ?
Absolument. La Commission européenne n'est pas compétente pour définir la politique énergétique d'un État. Les États sont souverains, ils font la politique énergétique qu'ils souhaitent, que le Parlement a décidé, que le gouvernement a décidé. En revanche, la Commission européenne, de par les traités, notamment le traité de Rome, mais aussi les autres traités qui suivront, a compétence pour que soit respecté le principe de la concurrence lorsque cette concurrence est possible. Et c'est en s'appuyant sur le traité de Rome essentiellement que la Commission européenne va essayer d'intervenir dans le domaine de l'électricité. Alors il faut comprendre que ce n'est pas la seule cause. Il faut savoir qu'il y avait à l'époque, dans les années 80-90, un grand mouvement de libéralisation, tout le monde considérant que les entreprises publiques, à l'échelle européenne, c'est pas spécifique à la France, à l'échelle européenne, les entreprises publiques pouvaient profiter de rentes, en quelque sorte, qu'elles n'étaient pas toujours efficaces, c'est un reproche qu'on connaît souvent.
On a souvent parlé de tournant libéral, néolibéral des années 80, que ce soit aux États-Unis ou en Europe.
Une tendance partout en Europe, le libéralisme, ça fait baisser les coûts, ça fait baisser les prix, un peu cette idée. Surtout, ça fait baisser les rentes. C'est-à-dire ça enlève les rentes de position. Simplement, c'est pas la seule raison. Il y a une autre raison qui a beaucoup joué, je pense, dans la libéralisation électrique, c'est le succès de la libéralisation des télécoms. N'oublions pas que dans les années 80, on a libéralisé les télécoms. Avant, il y avait en France un ministère des postes et télécommunications. La France, d'ailleurs, autant elle était performante dans le domaine de l'électricité, autant elle n'était pas performante dans le domaine des télécoms. Je ne sais pas si certains Français qui nous écoutent se rappellent du sketch de Fernand Reynaud sur le 22 Asnières. Mais le 22 Asnières, je dirais, il a fait beaucoup pour expliquer qu'en France, je dirais, la réputation des télécommunications n'était pas très bonne. Alors, ça a complètement changé parce qu'on a mis un coup d'accélérateur pour essayer de changer cette donne.
Et une libéralisation qui a provoqué une baisse importante des prix.
Alors, cette libéralisation,
pour ce qui est des télécoms.
Oui, mais parce que cette libéralisation s'est accompagnée d'un progrès technique. La grande différence entre la libéralisation dans les télécoms et la libéralisation dans l'électricité, c'est que dans les télécoms, en même temps qu'on libéralise, il y a un progrès technique. Le progrès technique, c'est quoi ? C'est le réseau hertzien. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de passer par une ligne fixe comme l'électricité, vous l'avez toujours à travers une ligne. Les télécoms, aujourd'hui, chaque opérateur a son réseau, c'est le réseau hertzien. Et le téléphone, il ne sert pas qu'à téléphoner. Je dirais aujourd'hui, c'est même une activité secondaire. Avec la libéralisation, sont apparus des tas de services nouveaux. Par exemple, vous pouvez envoyer des SMS, vous pouvez regarder la télé, vous pouvez faire écouter de la musique.
Et du coup, la demande a fortement augmenté, donc, là où la demande d'électricité est restée relativement stable.
Alors, la demande d'électricité, elle a continué à augmenter un peu, beaucoup moins. Là, tout à l'heure, on parlait d'une demande qui double tous les 10 ans. C'est fini. Mmh. Aujourd'hui, la demande d'électricité, depuis 10 ans, elle est remarquablement stable en Europe. Elle a même tendance à baisser très légèrement. Ça va probablement réaugmenter avec les nouveaux usages électriques. Mais il faut bien voir que le contexte est complètement différent. Néanmoins, beaucoup de gens ont dit, puisque dans les télécoms, l'ouverture à la concurrence a été bénéfique pour le consommateur, pourquoi pas dans l'électricité ? Simplement, en France, à l'époque, on n'était pas des enthousiastes de cette libéralisation parce que nous, on considérait que ça se passait plutôt bien. Ce qui n'était pas le cas partout. Et c'était notamment pas le cas au Royaume-Uni. Et ce sont les Anglais qui ont beaucoup insisté sur la libéralisation. Et donc, l'Europe, je dirais, a pris ce prétexte, je dirais, pour imposer cette ouverture à la concurrence.
Mais la France a fait de la résistance au début. Jacques Percebois, comment s'est déroulée cette libéralisation en France ? Quelle forme est-ce qu'elle a prise ?
Alors, la libéralisation, ça veut dire qu'on supprime les monopoles là où on peut les supprimer. L'électricité, c'est un produit particulier, j'ai dit tout à l'heure, c'est un produit qui est vendu à travers un réseau. Le réseau, lui, c'est ce qu'on appelle en économie un monopole naturel.
Et ça, Bruxelles le reconnaît, par exemple.
Alors, oui, ça, par contre, on peut pas. Le gouvernement, le Parlement français peut pas décider l'abolition des monopoles naturels. Monopole naturel, je dirais, si on veut prendre une image qui est peut-être plus facile à comprendre, le réseau de chemin de fer aujourd'hui va s'ouvrir à la concurrence, mais si une entreprise italienne veut faire circuler des trains en France, on va pas lui demander de construire un réseau ferré. Autrement dit, sinon on ne rentre pas. Donc si vous voulez, l'idée c'est que le réseau qui existe, c'est un bien commun en quelque sorte, ce qu'on appelle une essential facility en français, enfin c'est pas un très bon terme, enfin c'est une infrastructure essentielle, et donc cette infrastructure est mise à la disposition de tous, moyennant des péages. Ces péages sont fixés par une commission de régulation, c'est pas du tout le marché qui fixe le prix.
Et alors à quel endroit on pouvait faire de la concurrence justement?
Alors, on peut pas faire de concurrence sur le réseau, puisque par définition c'est un monopole naturel, le transport national, la distribution locale. En revanche, on peut faire de la concurrence en amont dans la production, parce que on peut avoir plusieurs producteurs. On peut faire de la production avec de l'électricité nucléaire, on peut faire de la production avec des centrales à gaz, on peut faire de la production avec du solaire, etc., etc. Et puis on peut faire de la concurrence tout à fait en aval au niveau de la commercialisation, c'est-à-dire avec les services qui accompagnent l'électricité. Donc on a ouvert la concurrence tout à fait en amont et tout à fait en aval, en sachant qu'au milieu, la contrainte des réseaux faisait que c'était des monopoles naturels qui restaient régulés. Donc dans l'électricité, vous avez une dualité, le régulé et le dérégulé.
Et alors écoutons sur ce point l'ancien dirigeant d'Attac et le collaborateur régulier au Monde diplomatique, Aurélien Bernier.
Depuis la fin des années 80, les années 90, l'Union européenne veut introduire la concurrence dans le secteur de l'énergie. C'est de dire le privé va pouvoir concurrencer le service public de la production d'énergie. On est dans un schéma où on a un opérateur historique, où ça fonctionne bien, où son activité est rentable, où le service est bien assuré. On introduit la concurrence, donc on permet au privé d'acheter et de revendre de l'énergie. On lui permet éventuellement de détenir des moyens de production. Et en fait, cette concurrence qu'on pourrait dire libre et non faussée, elle fonctionne pas. Elle fonctionne pas assez au goût des libéraux. Aujourd'hui, vous avez toujours plus de 80% des contrats d'électricité qui sont passés auprès d'EDF, entreprises et particuliers confondus, et 80% de ces contrats qui sont aux tarifs régulés, c'est-à-dire soumis à la réglementation de l'État.
Vous diriez, vous aussi, Jacques Percebois, que cette concurrence est libre et non faussée n'a pas fonctionné dans le cadre du marché de l'électricité?
Alors, il faut voir qu'il y a une spécificité française. D'abord, la libéralisation, c'est pas une arme de guerre contre la France. La libéralisation, ça concerne toute l'Europe. Donc, il se trouve qu'en France, beaucoup de gens, au début, tous les Français ont dit « Mais à quoi ça va servir ?» Puisque nous, on est plutôt contents du système. On avait une entreprise publique qui était performante, qui reste performante d'ailleurs, mais qui est performante, qui a des coûts plus bas que les autres et qui nous propose des tarifs plus bas que la moyenne européenne.
Avec l'idée qu'avec le nucléaire, on a des tarifs 20%, ou ça a été le cas peut-être historiquement moins aujourd'hui, mais 20% inférieurs à ceux d'autres pays européens.
On est à 20% en dessous avec le nucléaire actuel qui est en partie amorti. Bon, il faut savoir quand même qu'au moment du programme nucléaire, les prix de l'électricité ont monté en France. Il a bien fallu le financer, le programme nucléaire. C'est le consommateur final qui a financé le programme nucléaire. Dans les années 74 jusqu'à peu près 90, les prix de l'électricité ont plutôt tendance à monter. Ils vont baisser ensuite parce que on a amorti très largement ce nucléaire. Donc, au moment où on dit qu'il faut ouvrir à la concurrence, en France, on se dit, mais qu'est-ce que ça va nous apporter en plus? Mais le système n'est pas fait pour la France ou contre la France. Il est fait pour l'ensemble de l'Europe. Donc, on dit, il n'y a pas de raison qu'on n'ouvre pas à la concurrence une activité qui, normalement, de par les textes, peut être ouverte.
Mais c'est un système qui aurait plutôt défavorisé la France par rapport à d'autres pays européens?
A priori, absolument. Si vous voulez, ceux qui ont fait pression pour l'ouverture à la concurrence de l'électricité, c'est par exemple les Anglais ou les Allemands. Les Allemands trouvaient anormal, les entreprises allemandes trouvaient anormal de ne pas pouvoir acheter leur électricité directement à EDF où les prix étaient plus bas qu'en Allemagne. Ils étaient obligés de passer par le monopole allemand local. Alors on disait, non, il faut acheter à l'entreprise allemande. Vous n'avez pas le droit d'acheter directement à EDF. Ils ont dit, qu'est-ce que c'est que cette Europe où on ne peut pas acheter où on veut? Donc si vous voulez, c'est une règle générale.
C'est pour ça qu'un marché de gros de l'électricité a été mis en place à ce moment-là. À quoi était censé servir ce marché,
alors,
Jacques Percebois?
Absolument, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ouvrez à la concurrence la production, vous avez des producteurs qui, à un moment donné, peuvent avoir trop d'électricité par rapport à leurs clients. Si vous avez des clients qui sont partis, vous avez trop d'électricité. À l'inverse, vous avez des opérateurs qui veulent rentrer sur le marché pour avoir des clients. Donc ils vont prospecter, ils ont un portefeuille de clients, mais ils n'ont pas l'électricité. Par exemple, ils pourraient produire l'électricité, il faut construire des centrales. Ils n'ont pas le droit de construire du nucléaire, c'est un des problèmes d'ailleurs, mais ils vont construire des centrales à gaz, ou éventuellement des centrales biomasse, ou éventuellement des centrales au charbon, bon, en Europe, hein, je ne parle pas spécifiquement pour la France. Donc, ceux qui veulent en quelque sorte entrer sur le marché, ils n'ont pas nécessairement de l'électricité. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont en acheter. Alors, ils peuvent l'acheter directement à EDF, mais une solution beaucoup plus simple, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un marché de gros, c'est ce qu'on a fait. Les Anglais avaient été les premiers à le faire. Un marché de gros où on échange de l'électricité, si vous voulez, comme on échange n'importe quel autre produit. Alors ce marché, en Europe aujourd'hui, n'est plus un marché obligatoire. Pendant un certain temps, c'était un marché obligatoire. Tous ceux qui
produisent. Qu'est-ce que ça signifie qu'il n'est pas obligatoire ?
Ben, ça veut dire que vous pouvez vendre directement à un consommateur sans passer par le marché.
D'accord.
Le marché de gros, si vous voulez, il y a un prix toutes les heures. Vous avez 24 prix par jour. Aujourd'hui, il y a un prix à chaque heure qui a été négocié hier. Et donc, vous pouvez vendre ou acheter sur ce marché. Et donc, les alternatives, c'est-à-dire les fournisseurs alternatifs, peuvent acheter de l'électricité sur ce marché, qui est évidemment alimenté notamment par la production d'EDF.
Et alors, quel a été l'impact de cette ouverture à la concurrence sur les prix? Je vous propose d'écouter l'ancien directeur général d'EDF, Jean Bergougnoux. Il était sur France Culture en 2009.
Imaginez un instant que l'on applique jusqu'au bout les mécanismes de marché. Que va-t-il se passer ? Il va se passer, pour l'essentiel, que les prix de l'électricité sur le marché de gros étant extrêmement fluctuants, et notamment ayant des variations de grande amplitude en fonction des prix du pétrole ou du gaz, ceci va se trouver logiquement répercuté sur le client final. Si l'on joue ce jeu pour les industriels, on peut dire à la rigueur qu'ils sont habitués à ce que le prix du fioul varie et que c'est une variabilité. Bon. Du côté du consommateur domestique, il serait totalement incompréhensible d'avoir des prix fonction du prix du pétrole alors qu'on lui a expliqué que l'électricité française était à 90% nucléaire plus hydraulique.
Alors ce qu'on a constaté, Jacques Percebois, c'est que les prix de l'électricité n'ont cessé d'augmenter en France et ils ont connu il y a 10 jours, le 1er juin, leur plus forte hausse depuis 20 ans, plus 5,9%. Comment est-ce qu'on peut expliquer une hausse aussi importante ?
Alors, il faut d'abord rappeler une chose très importante, c'est que vous avez plusieurs prix de l'électricité. Là, ce dont vous parlez, c'est ce qu'on appelle le TRV, tarif réglementé de vente. Justement, pour éviter ce que ce monsieur Bergougnoux disait, pour éviter que le consommateur domestique, je dirais, voit son prix changer tous les jours, le gouvernement a maintenu des tarifs réglementés. Il les avait d'ailleurs maintenus au départ pour les industriels, ils ont été supprimés en 2016 complètement. Il n'y a plus de tarif vert, il n'y a plus de tarif jaune, il n'y a qu'un tarif bleu pour le secteur domestique et les artisans, bon, les petits consommateurs en dessous de 36 kVA, c'est-à-dire en dessous de 36 kilowatts.
Il a fallu mettre en place un mécanisme pour que justement ces prix ne soient pas dépendants du pétrole et du gaz. Et ce mécanisme, c'est ce fameux AREN, l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, un mécanisme que vous avez contribué à créer en qualité d'expert, Jacques Percebois.
Oui, ben, j'étais avec Jean Bergougnoux à la commission Champsor qui a mis en place l'AREN, justement. Il était également membre de cette commission. Alors, il faut bien comprendre le problème. On a maintenu un tarif réglementé, ce qui n'est pas le vrai dans tous les pays. Hein. La France l'a maintenu avec quelques autres pays, mais ce n'est pas vrai dans tous les pays. On a maintenu un tarif réglementé, mais ce tarif réglementé, il est constitué un peu comme un millefeuille par plusieurs strates. Tout d'abord, il y a le coût des réseaux. Alors le coût des réseaux, il n'y a pas à discuter, tout le monde paye le même prix. Ensuite, vous avez des taxes. Là non plus, il n'y a pas à discuter, c'est l'État, le Parlement qui fixe les taxes. On y reviendra probablement. Et puis, vous avez un troisième tiers, parce qu'en fait, c'est trois tiers. Il y a des gros et des petits tiers, mais c'est trois tiers. Et le troisième tiers, le plus gros, c'est le coût de production de l'électricité. Alors, en France, aujourd'hui, l'électricité nucléaire, c'est à peu près 72%. C'était l'année dernière 71,6%. C'est 72%. Ça a été 75, mais c'est plus 75. Donc, il y a ce qu'on appelle un complément marché. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher une partie de l'électricité aux heures de pointe, sur le marché. Soit on l'importe, soit on la produit avec d'autres moyens.
Et c'est sur cette partie-là seulement que la concurrence peut jouer. C'est là-dessus seulement qu'on pouvait éventuellement faire baisser les prix.
Et oui, parce que, si vous voulez, les autres alternatifs, les autres fournisseurs n'ont pas accès, ne produisent pas d'électricité nucléaire. Alors, pour fixer ces tarifs réglementés, il y a ce complément marché qui, lui, dépend de quoi ? Il dépend de l'électricité qu'on appelle thermique, gaz, ou thermique charbon, ou éventuellement renouvelable. Donc, on fait une partie de l'électricité avec des centrales thermiques. En Europe, hein, pas seulement en France, en Europe avec ces centrales thermiques. Donc, le prix de l'électricité thermique est très sensible au prix du pétrole, parce qu'on fait très peu d'électricité avec le pétrole. En revanche, quand le prix du pétrole monte, le prix du gaz monte. Le prix du charbon a tendance à suivre. Donc, ce qui s'est passé depuis quelques années, alors c'est moins vrai, c'est tout dernier mois, mais ce qui s'est passé en 2018, par exemple, c'est que le prix du pétrole a monté. On a beaucoup parlé de l'augmentation du prix du pétrole. Donc, le prix du gaz a monté. Donc, le prix de l'électricité thermique a monté. Donc, mécaniquement, le prix de l'électricité française a monté à cause de la petite partie qui est, je dirais, le complément marché.
Et alors, pour soutenir les concurrents d'EDF, on a mis en place l'AREN, donc ce mécanisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il consiste, Jacques Percebois?
Alors là, il faut revenir, je dirais, à l'ouverture le 1er janvier 2000. Le 1er janvier 2000, les industriels français, pas tout le monde, il faudra attendre 2007 pour que tous les Français puissent le faire.
C'est d'abord les entreprises, puis les particuliers.
Les grosses entreprises, puis les moyennes, puis les petites, puis ensuite tout le monde. Au 1er janvier 2000, les grandes entreprises peuvent changer de fournisseur. Début 2000, le prix du pétrole est très bas et on est en surcapacité électrique. Ça veut dire que le prix de l'électricité des alternatifs, des fournisseurs alternatifs, est relativement bas. En plus, ils veulent casser les prix pour attirer les clients.
Donc au départ, c'est un mécanisme intéressant.
Tout le monde dit, ah, la libéralisation, c'est fantastique. Donc les gros industriels sont très contents d'ouverture à la concurrence.
Sauf qu'en 2008, les prix du pétrole commencent à monter.
À partir de 2004, les prix du pétrole vont commencer à monter. Et donc à ce moment-là, les industriels qui étaient passés en offre de marché, ce qu'on appelle en offre de marché, ils ont quitté le tarif réglementé et ils ont dit on va revenir à l'ancien système. On leur a dit ah ça c'est pas possible, c'est prévu dans les textes, une fois qu'on a quitté le tarif réglementé, on peut pas revenir en arrière. Par conséquent, ils sont allés se plaindre, à la Commission européenne qui a dit pas question, au gouvernement qui a dit pas question, etc., etc. Ils sont allés au Parlement, et le Parlement a dit c'est quand même étonnant, en effet, que ces industriels ne puissent plus profiter du bas coût de l'électricité nucléaire. Ils sont partis, mais c'est absurde. Si les industriels français sont obligés d'acheter leur électricité au prix des Allemands ou autres, quel est l'intérêt de l'ouverture à la concurrence? Alors, Bruxelles a menacé, alors le Parlement a mis en place un TARTAM, c'est-à-dire un tarif transitoire. C'est-à-dire, il a remis un tarif réglementé, mais un peu différent du précédent.
C'est surtout l'AREN qui existe encore aujourd'hui.
Mais il faut comprendre ce tarif réglementé pour comprendre l'AREN. Ce tarif réglementé était illégal. Par conséquent, le Conseil d'État l'avait dit, c'est illégal. Et la Commission européenne a attaqué la France sur la base de ce fameux tarif transitoire. Et donc, il a fallu que le gouvernement change de solution. Et donc, il a créé une commission, la commission Champsaur, qui a proposé deux solutions en privilégiant l'une des deux. Il y avait deux solutions. Soit on taxait EDF pour monter, si vous voulez, c'est un problème d'écluse, soit on taxait EDF pour monter EDF au niveau du coût des concurrents, soit on permettait aux concurrents, ils n'ont pas d'électricité nucléaire. Ben, on va vous en donner. Mais évidemment, si vous la donnez au prix du marché, c'est pas intéressant. Donc, il faut la donner au coût auquel ça revient
à
EDF.
Donc, on l'a fixé à 42 euros le mégawattheure.
Alors, la commission l'avait proposé à 39 au ministre. On avait proposé, c'était à l'époque, il y avait deux ministres. Hein. Il y avait Jean-Louis Borloo et Christine Lagarde. On avait proposé 39 avec une fourchette 38-40. Bon, c'est un peu plus tard. En fait, c'est Éric Besson, d'ailleurs, qui a pris la décision. On avait proposé 39. Entre 38 et 40, le gouvernement a choisi 40, puis 42. 40 fin 2011 et 42 à partir de 2012.
Et donc la situation, pour résumer, Jacques Percebois, c'est qu'aujourd'hui, EDF est obligé de vendre un quart de sa production annuelle d'électricité nucléaire.
Absolument. Elle la vend à 42. Seulement, c'est un système un peu particulier parce que les alternatifs, les concurrents d'EDF, quand le prix du marché de gros est en dessous de 42, ils disent l'AREN, on n'en veut pas. Alors ça s'appelle l'AREN pour accès régulé à l'énergie nucléaire historique. Donc, si vous voulez, on parle beaucoup de l'AREN. C'est une vente d'électricité nucléaire à prix coûtant. Alors, 100 TWh, c'est-à-dire un quart de la production nucléaire, pour faire simple. Les concurrents d'EDF, quand ils ont besoin d'AREN, ils en demandent. Ils en demandent quand? Quand le prix du marché de gros est supérieur à 42. Quand le prix du marché de gros est inférieur à 42, ils disent « on n'en veut pas, débrouillez-vous ». Donc c'est un système quand même un peu asymétrique qui n'est pas correct.
Et dans la situation actuelle, Jacques Percebois, pour bien comprendre pourquoi les prix de l'électricité augmentent, c'est aussi lié à l'augmentation des prix de l'énergie au niveau mondial et au niveau européen?
Oui, alors les prix avaient monté. Alors il faut pas regarder les chiffres de ces dernières semaines parce qu'en ce moment les prix sont plutôt bas. Je ne veux pas dire que les prix ont monté là parce que c'est une résolution de la commission de régulation de février qui qui s'applique.
Qui a été reculé à cause de la crise des Gilets jaunes.
Mais si le prix du pétrole continue à chuter, la même commission de régulation, fin 2019 ou début 2020, va demander qu'on baisse le prix de l'électricité. Donc il faut pas, il n'est pas exclu que le prix de l'électricité continue à baisser, se remette à baisser. Ceci étant, il faut bien comprendre que la hausse du prix de l'électricité, elle est due essentiellement au complément marché qui a fait que pendant l'année 2018, le prix du pétrole a monté, donc le prix du gaz a monté, donc le prix de l'électricité thermique a monté. Elle est due aussi au fait que quand vous émettez du carbone en faisant de l'électricité thermique, vous devez payer, le CO2 que vous émettez. Et le prix du CO2 est passé de 5 à 26 euros la tonne.
En quelques mois seulement ou en un an.
Absolument, ça joue. Il faut voir aussi qu'on a mis en place un marché de capacité. C'est-à-dire qu'il faut que les opérateurs assurent qu'on aura la puissance quand c'est nécessaire. Et ça, ça se rémunère. Donc, si vous voulez, vous avez une conjonction de facteurs. Alors, ce que disent certains, c'est « Donnez-nous plus d'arènes, comme ça, le prix ne montera pas ». Mais EDF n'est pas d'accord.
EDF explique que c'est le mécanisme de l'AREN qui est responsable en grande partie de sa dette importante. Il explique qu'il ne peut pas assurer sur ce point.
Oui, c'est un manque à gagner. Parce que EDF a raison de dire que quand le prix du marché est à 50 ou 60, vendre à 42, c'est un manque à gagner. C'est logique.
Alors, on va voir dans un instant, Jacques Percevoix, quel est l'impact aujourd'hui des questions de transition énergétique sur ce prix de l'électricité.
Wake up in the morning, put your eye makeup on, and you'd make your way downstairs and put your records on. You would play your music so loud, we'd be upstairs asleep. Music would empower you to make you strong to get through the week. You would wear the music like armor for the daily fight and protect your love from prejudice. You would fight for her right. Support to nobody, and you never gave up. Even in those hard times, you showed us how music could give us love.
Écoutez Powerhouse de Planning to Rock sur France Culture, d'entendez-vous l'écho. Nous poursuivons notre discussion sur le marché de l'électricité avec Jacques Percevoix, professeur émérite à l'Université de Montpellier et directeur du Centre de Recherche en Économie et Droit de l'Énergie, le CREDEN.
La France a promis qu'elle prendrait des mesures et qu'elle adopterait une feuille de route concrète pour respecter sa loi de transition énergétique. Cette loi de transition énergétique, elle a été adoptée en 2015 par le gouvernement Hollande et elle a beaucoup d'avantages, notamment des objectifs qui sont assez clairs et assez ambitieux. Par exemple, celui d'atteindre 32% d'énergie renouvelable en 2030. Par exemple, celui de baisser la part du nucléaire à 50%. Ou encore de diviser notre consommation d'énergie par deux d'ici 2050. Ça, on sait que ce sont des choses qu'il faut faire pour relever le défi climatique. Cependant, ces objectifs, ils manquent de moyens et d'un plan d'action pour qu'on puisse les atteindre.
Voilà, on entendait Célia Gauthier, responsable climat-énergie à la Fondation pour la nature et l'homme, créée par Nicolas Hulot. Le prix de l'électricité dépend donc aussi des politiques mises en place pour accélérer la transition énergétique et favoriser les énergies renouvelables. Et parmi ces politiques en faveur des énergies renouvelables, on peut évoquer le mécanisme des prix garantis avec obligation d'achat. De quoi s'agit-il, Jacques Percevoix ?
Alors, tout à l'heure, on a dit les raisons pour lesquelles le prix de l'électricité est monté là ces dernières semaines ou ces derniers mois. Il ne faut pas oublier que sur longue période, si vous regardez les dernières années, la principale raison de la hausse du prix de l'électricité en France, qui malgré tout, je le rappelle, reste en deçà de la moyenne des prix européens. Nous sommes 20% en dessous, hein, donc par conséquent, on est encore bien en dessous de la moyenne européenne. La principale raison, c'est l'augmentation des taxes. On parle beaucoup de l'augmentation des taxes sur l'essence, de l'augmentation des taxes sur les cigarettes et sur l'alcool. Mais là, ce qui a le plus augmenté depuis 10 ans, 500%, entre 400 et 500%, ça dépend comment on compte, c'est énorme. Ce sont les taxes sur l'électricité. Pourquoi ? Parce qu'une partie de ces taxes, une partie, hein, sert à financer le surcoût des renouvelables. Alors, il faut comprendre que la troisième directive, celle de 2009, je dirais, tout en maintenant le principe de la libéralisation, a fait une entorse, une exception fantastique au principe de la concurrence, en disant, pour les renouvelables, il faut faire autre chose que la concurrence. Il faut mettre en place un mécanisme de prix d'achat garanti. Ça part d'un bon sentiment. On peut parfaitement le défendre. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne idée. Aujourd'hui, on trouve qu'il y a eu des effets pervers. Hein. Mais il faut bien voir qu'au départ, c'est quand même une exception gigantesque au principe de la concurrence. Puisqu'on, le principe de la concurrence, c'est quand c'est rentable, ça passe. Quand c'est pas rentable, on n'aide pas.
Bon, ça, c'est non seulement les prix sont fixés et garantis, mais il y a des obligations d'achat. Donc, il y a un double mécanisme.
Oui, il y a en plus des obligations d'achat. Alors, si vous voulez, le principe de ce qu'on appelle les prix d'achat garantis, on a fait avec l'électricité la même chose qu'avec la politique agricole commune pour l'agriculture. Rappelez-vous, en France, en Europe, on a mis en place des prix garantis pour les produits agricoles qui étaient bien au-dessus des prix internationaux en disant on subventionne. On a tellement subventionné qu'à un moment donné, on est obligé d'arrêter. Bon. Alors, pour l'électricité, le principe des prix d'achat garanti, c'est très simple. Celui qui fabrique de l'électricité solaire ou éolienne, avec une centrale en particulier, c'est surtout des opérateurs institutionnels, quand il vend cette électricité sur le réseau, il la vend à EDF, qui a l'obligation de la racheter à un prix fixé par arrêté ministériel sur une durée assez longue, 15 à 20 ans. Et comme ce prix, pour encourager, et le résultat a été obtenu, pour encourager l'augmentation de la production, donc la baisse des coûts, ce prix est très supérieur au prix du marché. Et la différence entre le prix garanti et le prix du marché est financée par une taxe qu'on appelle la contribution au service public de l'électricité. Et cette taxe est financée par tous les consommateurs d'électricité.
Et ça a permis, en effet, le développement de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique
absolument,
français.
Absolument, ça a été partout en Europe. Alors, les Allemands ont été les plus ambitieux, hein, les Espagnols aussi. Nous, on a été un peu plus timorés. Mais encore que l'objectif est même plus important que ce qu'on vient de dire. Ce n'est pas 32% à l'horizon 2030. Les dernières décisions, c'est 40% à l'horizon 2030, ce qui est absolument énorme. Hein. Donc, si vous voulez, ces prix d'achat garantis, je veux dire, ils ont en quelque sorte boosté le développement des renouvelables partout en Europe, et même un peu dans le monde, parce que ce n'est pas un système typiquement européen. Mais il y a eu un effet pervers, parce que du coup, ça renchérit le coût pour le consommateur final. Aujourd'hui, les taxes, ça représentait 18% du prix final pour le consommateur domestique il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est 34%. Donc, si vous voulez, quand vous achetez un kilowattheure, vous payez 34% de taxes.
Et puis, il y a eu un autre effet pervers qui a été celui de faire chuter les prix de gros. C'est lié à la surproduction, Jacques Percebois. Et si oui, quelles ont été les conséquences de cet effondrement des prix de gros ?
Alors ça, si vous voulez, c'est, je dirais, pour les économistes, quelque chose d'assez particulier, parce qu'on a l'impression qu'on marche un peu sur la tête, en effet. Quand vous financez des renouvelables, vous les financez hors marché, vous les payez, je dirais, grâce à des taxes. Comme cette électricité renouvelable va sur le marché de gros, mais à un prix qui est zéro, puisqu'elle est payée hors marché, donc elle participe aux enchères à coût nul. Ça veut dire que le prix du marché de gros a tendance à baisser. Donc le prix du marché de gros baisse, et donc le différentiel, la différence entre le prix du marché de gros et le prix garanti augmente, donc les taxes augmentent. Donc le consommateur final, il va lire dans le journal économique le jour, le prix sur le marché de gros est nul, voire négatif. Dans certains cas, il y a même eu des prix négatifs, que beaucoup de gens ont du mal à comprendre.
Et sur sa facture, ça augmente.
Et sur sa facture, on voit que ça augmente, parce que les taxes augmentent. Donc si vous voulez, c'est un système qui, de ce point de vue, est pervers. Ce qui explique d'ailleurs qu'on ait plus ou moins tendance à abandonner ce système au profit d'un nouveau système, des primes, c'est-à-dire un système soit d'enchères avec primes, enfin c'est un système plus complexe. Mais
ça permet d'adapter vraiment ce prix garanti dont bénéficient les énergies renouvelables au prix du marché. On essaye de faire coïncider davantage les deux prix.
Oui, l'objectif, si vous voulez, c'est qu'il n'y ait plus, parce qu'il y a eu des rentes, il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent avec ça. Parce que c'est pas le particulier qui a mis du solaire sur son sa villa, c'est pas lui qui est en cause. Hein. Ce qui est en cause, c'est ceux qui ont créé des véritables centrales sur des champs pour en effet gagner beaucoup d'argent grâce à des prix garantis sur une longue période. La Cour des comptes a fait un rapport qui dit si vous cumulez ce que ça va coûter jusqu'en 2040-45, puisque c'est à peu près jusqu'à ce moment-là que les contrats ont été signés, ça représente, en cumul, hein, 121 milliards d'euros. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 5 milliards d'euros par an. En 2022, ce sera 7 milliards d'euros par an. Je m'appuie sur un rapport de la Cour des comptes, c'est très objectif.
Mais alors, Jacques Percebois, est-ce que la solution ne passe pas par l'autoconsommation individuelle ou collective d'énergie renouvelable, justement? Il n'y aurait plus tous ces limites que l'on vient d'examiner.
Alors, à terme, probablement qu'on pourra développer l'autoconsommation, mais n'oublions pas une chose. C'est qu'aujourd'hui, un autoconsommateur, il peut pas être autoconsommateur totalement, sauf rares exceptions. Il a toujours besoin d'être connecté au réseau. Parce qu'il y a toujours le problème de l'intermittence. Donc, si vous voulez, tant qu'on n'a pas réglé le problème du stockage, il y aura un problème d'autoconsommation.
Il n'y a jamais du soleil tout le temps ou du vent tout le temps qui permet d'avoir l'énergie dont on a besoin.
Et puis, il y a un autre élément qu'il ne faut pas sous-estimer. Alors là, les spécialistes des réseaux connaissent bien ce phénomène. C'est ce qu'on appelle le foisonnement. Si vous voulez, si vous additionnez toutes les puissances installées chez tous les Français, c'est-à-dire vous avez une puissance pour faire face parce que vous avez un réfrigérateur, une machine à laver, un téléviseur, etc. Les industriels, ils ont des équipements. Si vous faites la somme de tous ces équipements, elle est en puissance, je parle en puissance, elle est 4 fois supérieure à peu près à la puissance disponible en France. Pourquoi ? Parce que tout le monde n'utilise pas la puissance en même temps. Tout le monde ne se connecte pas en permanence au réseau à la même puissance. Donc, si vous faites votre production vous-même, il faudra que votre puissance installée corresponde à votre puissance maximale. Donc, si vous voulez, il faut voir aussi qu'il y a un intérêt des réseaux. Les réseaux, à mon avis, ne vont pas disparaître.
Mais alors, peut-être que les progrès du côté du stockage de l'électricité devraient permettre un certain nombre d'avancées. Je pense en particulier au mécanisme du power to gas. Jacques Percebois, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
Alors, vous avez en fait trois principaux systèmes de stockage. Un qu'on connaît depuis longtemps, ce qu'on appelle les stations de pompage. C'est-à-dire, en fait, si vous voulez, quand vous avez mettez deux barrages l'un au-dessus de l'autre, et puis quand vous avez trop d'électricité la nuit, par exemple, vous pompez de l'eau du barrage du dessous vers le barrage en amont. Et puis, quand vous avez besoin d'électricité, vous turbinez, et donc vous utilisez l'eau qui est dans le barrage amont vers le barrage aval. Ça s'appelle des stations de pompage. Et ça, on en a en France, on a pas mal. On pourrait encore en construire, mais c'est pas facile de construire des barrages. La deuxième solution, c'est les batteries. Alors, les batteries, à l'heure actuelle, elles sont pas très très performantes, mais le coût des batteries a tendance à baisser, leur performance a tendance à s'accroître, et le développement du véhicule électrique, qui va être beaucoup plus rapide que beaucoup de gens pensent, ce développement du véhicule électrique devrait, si vous voulez, permettre en quelque sorte de bien gérer ces batteries. Et il y a une troisième solution, ce qu'on appelle en effet le power to gas, qui consiste tout simplement à faire l'électrolyse de l'eau. Et donc, si vous faites l'électrolyse de l'eau, vous avez de l'hydrogène, H2, puis vous avez de l'eau, l'oxygène de l'autre côté. Donc,
on transforme du solaire et de l'éolien en gaz, en fait.
Alors, à ce moment-là, vous avez de l'hydrogène. Alors, ensuite, soit cet hydrogène, vous l'utilisez tel quel, par exemple, dans une pile à combustible, par exemple, dans une voiture. C'est-à-dire une voiture qui a une pile à combustible, c'est-à-dire vous retransformez votre hydrogène en électricité, soit vous y ajoutez, alors c'est un peu plus compliqué, de ce qu'on appelle du CO2, du dioxyde de carbone, et à ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle le phénomène de la méthanation, pas méthanisation, hein, méthanation, et vous produisez à ce moment-là du CH4, du méthane, et avec ce méthane, vous pourrez refaire de l'électricité. Mais il faut dire que les rendements aujourd'hui ne sont pas très bons.
Mais on peut quand même dire qu'il y a des progrès importants de ce côté-là ?
Oui, absolument. Non, mais l'avenir, si vous voulez, aujourd'hui, le progrès technique.
C'est l'une des critiques qu'on fait aux énergies renouvelables, c'est ce problème de l'intermittence et des difficultés de stockage.
Des progrès ont déjà été faits, et aujourd'hui, le grand progrès qu'on attend partout, c'est en effet le progrès au niveau du stockage.
Et alors, l'autre question qui se pose, et que vous souleviez tout à l'heure, Jacques Percebois, c'est la perspective d'une éventuelle hausse de la demande d'électricité. Au niveau mondial, c'est à peu près sûr, mais on peut aussi se poser la question de cette hausse en France et en Europe.
Oui, alors pour l'instant, c'est-à-dire été une surprise, parce que pendant longtemps, on disait l'électricité, la demande ne va pas arrêter d'augmenter. Pour l'instant, elle reste stable.
Dans
les pays occidentaux, parce que si vous voulez, vous avez des nouveaux besoins électriques, mais compensés par de l'efficacité. C'est-à-dire que ce que vous dépensez d'un côté, vous le gagnez en quelque sorte de l'autre, parce que vous faites de l'efficacité.
L'efficacité et de la sobriété.
Et de la sobriété, donc si vous voulez, vous avez moins besoin. Ceci étant, si vous développez le véhicule électrique à grande échelle, là on pense, et puis les objets connectés, hein, on en parle beaucoup aujourd'hui. aujourd'hui des objets connectés, tout ce qui sera électrique dans la maison, par exemple, eh bien, tout ça fait que la demande d'électricité devrait monter. En principe, on s'attend pas à une envolée de la demande d'électricité. Pour les batteries, le seul problème qu'on a avec une augmentation très forte de la pénétration du véhicule électrique, c'est le problème de la recharge aux heures de pointe, c'est-à-dire un problème de puissance. L'électricité, c'est un produit particulier. Il faut dissocier, je dirais, l'énergie en tant que telle et la puissance. En fait, l'électricité, si vous avez besoin d'une puissance, vous avez une puissance installée chez vous en kilowatts. Vous utilisez cette puissance pendant une certaine durée, vous consommez des kilowattheures. Et donc, le problème de la recharge, c'est pas un problème d'énergie, c'est un problème de puissance. Il faut que, lorsque les gens se connecteront, ils se connectent pas tous ensemble. Parce qu'à ce moment-là, le réseau pourra pas faire face.
Et alors, pour vous, les prix de l'électricité là, devraient continuer à augmenter?
Alors, pour l'instant, si vous voulez, je rappelle qu'en France, ils sont relativement, ils restent malgré tout plus bas que la moyenne européenne. Il y a plutôt des éléments qui militent en faveur d'une hausse. D'abord parce que si on veut prolonger les centrales nucléaires actuelles, il va falloir faire des dépenses de carénage. Et donc ça va plutôt aller dans le sens de l'augmentation. Le nouveau nucléaire coûte plus cher. Il y a de nouvelles contraintes, si vous voulez, environnementales qui apparaissent. Il faudra aussi entretenir les réseaux. Donc il ne faut pas penser que l'électricité, son prix va baisser éternellement. D'ailleurs, je rappelle que beaucoup de gens disent la libéralisation, c'est la baisse des prix. La libéralisation, c'est la baisse des rentes. C'est-à-dire qu'on supprime les rentes indues, mais il faut suivre les coûts. Si le coût augmente, il faut suivre.
Et alors, il y a un autre aspect qui va peut-être jouer, Jacques Percevoix, le fait que le gouvernement travaille à ramener la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% d'ici à 2035. Ça, c'est ce qu'a déclaré au mois de novembre le ministre de la Transition écologique, François de Rugy. Un engagement qui soulève certaines inquiétudes.
Il faut faire un petit peu attention à ne pas aller trop vite sur le déclassement du parc nucléaire, parce que pour le moment, c'est vrai qu'on l'a amorti, en gros, on a payé tous les coûts, et que le coût de l'électricité d'une centrale nucléaire aujourd'hui est très faible. Donc il doit y avoir un changement du mix énergétique vers moins de nucléaire, nous, notre position, c'est qu'il faut quand même prendre un peu en compte, il faut faire attention à l'impact économique. Bien entendu, la première chose, et ça c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui doit le dire, c'est la question de la sûreté et donc des investissements qui doivent être faits après Fukushima. Mais une fois qu'on a réglé cette question de la sûreté nucléaire, et ça, il doit y avoir une autorité indépendante qui nous le dit, si c'est sûr, alors dans ce cas-là, il faut faire attention à ne pas aller trop vite dans le déclassement parce que ça peut avoir un impact donc, assez négatif à court terme, au moins sur la compétitivité.
Voilà, c'était Philippe Martin, professeur au département d'économie de Sciences Po. Il était au micro de Dominique Rousset sur France Culture. Il ne faut pas aller trop vite, nous dit-il. Et pourtant, l'engagement des 50% de nucléaire dans le mix énergétique français a déjà été repoussé de 10 ans par rapport à ce que prévoyait la loi de 2015, Jacques Percevoix.
Oui, moi écoutez, j'ai eu l'honneur de présider une commission du temps du gouvernement de François Fillon sur justement la prolongation ou non des centrales nucléaires. Cette commission avait conclu qu'il était préférable d'allonger la durée de vie des centrales nucléaires de tout le parc de 50 voire 60 ans. Je signale qu'il y a un rapport tout récent de l'Agence internationale de l'énergie qui dit exactement la même chose et qui dit aujourd'hui, plutôt que de construire de nouveaux réacteurs, ça coûte moins cher, sous réserve évidemment de respecter les normes environnementales, ça coûte moins cher de prolonger les réacteurs existants, à l'instar de ce qui se passe aux États-Unis. Donc je pense qu'en effet, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse, il ne faut pas se précipiter. Le gouvernement, c'est un choix politique, c'est son droit. Il a décidé de réduire la part du nucléaire à 50% en 2035, je ne sais pas si ce sera 2035 ou après.
Comme ça a déjà reculé de 10 ans, on peut imaginer que ça sera probablement un peu plus tard.
Les engagements politiques, sont parfois modifiés par la réalité ou les faits.
Et donc, mais en même temps, il y a des inquiétudes. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui expliquent que si le nucléaire, la part du nucléaire baisse, elle ne sera pas forcément compensée par le renouvelable. Et dans ce cas-là, elle le sera par le gaz. Donc, avec tous les l'impact environnemental que ça suppose.
Il faut savoir ce qu'on veut. Si on remplace le nucléaire par des renouvelables, sur le plan environnemental, ça ne change rien, puisqu'on remplace une énergie décarbonée par une autre énergie décarbonée. Parce que le nucléaire, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, n'est pas une énergie carbonée.
À condition de pouvoir remplacer effectivement par le renouvelable et d'avoir donc
les structures si on remplace en effet par des centrales thermiques, c'est une autre question. Mais je vous signale que le choix du gouvernement n'a de sens parce qu'en même temps, il fait l'hypothèse que la demande d'électricité va baisser. là, je suis beaucoup plus dubitatif. Autant, si vous voulez, je pense qu'il est dans son droit de dire la part du nucléaire doit être à tel niveau, autant faire l'hypothèse que la demande d'électricité et la demande finale en France d'énergie va baisser
grâce fortement. À l'efficacité et la sobriété énergétique.
Oui, oui.
C'est en tout cas l'hypothèse.
Oui, c'est une hypothèse, hypothèse qu'on peut trouver un peu optimiste.
Et alors, qu'est-ce que la loi énergie et climat qui va être examinée cet été devrait changer à cela, Jacques Percevoix? Il faut aujourd'hui réformer les tarifs. C'est une question qui va être discutée.
Alors, si vous voulez, moi, je pense que l'ARENH, on a parlé tout à l'heure, cette idée que les concurrents d'EDF peuvent acheter à prix coûtant une partie du nucléaire, ça a joué son rôle. Ça s'est bien passé. Je pense que maintenant, l'ARENH, on peut la supprimer. Juridiquement, on va jusqu'en 2025. La loi prévoit que ça doit aller jusqu'en 2025.
Mais ça pourrait être interrompu avant, on va plutôt vers cela.
Il suffit de modifier la loi. Donc, si vous voulez, moi, je serais plutôt favorable à ce qu'on arrête l'ARENH. Hein, il n'y a plus besoin d'ARENH. D'autant que l'ARENH, aujourd'hui, ça aide plutôt des gros concurrents. Jusqu'à maintenant, c'était des petits opérateurs. Je vous signale, vous aviez Poweo, racheté par Direct Energy, Direct Energy racheté par Total. Donc, Total, Engie ou autre, on est plutôt dans des opérateurs de grande dimension. Est-ce qu'EDF doit subventionner ses opérateurs? Ça se discute.
Donc l'ARENH a fait son temps selon vous et vous avez le sentiment que c'est aussi ce vers quoi va le gouvernement, vers une suppression de l'ARENH?
Non. Je pense que le gouvernement, lui, à court terme, il va plutôt, je dirais, aller dans le sens des alternatives, c'est-à-dire augmenter un peu la part d'ARENH, c'est-à-dire permettre aux alternatifs d'obtenir un peu plus d'ARENH. Moi, je pense que c'est pas une bonne affaire pour EDF, mais on va probablement vers ça en attendant, et c'est probablement ça, en attendant une réforme plus en profondeur, je dirais, de l'organisation de l'électricité en France et notamment du statut d'EDF.
Et justement, sur ce statut d'EDF, Jacques Percevoix, est-ce qu'il faut s'attendre à un démantèlement d'EDF? C'est actuellement en discussion. Et quelles seraient les conséquences de ce démantèlement?
Moi, j'ai pas d'informations privilégiées. Simplement, en effet, il y a parmi les projets, semble-t-il, un projet qui consisterait à dire le nucléaire, c'est quand même spécifique, il faut en quelque sorte le sanctuariser dans une entreprise publique, totalement publique. Et à ce moment-là, eh bien, le prix de l'électricité nucléaire serait totalement régulé, c'est-à-dire que c'est l'État en quelque sorte qui fixerait le prix auquel tout le monde accéderait à cette électricité. Et puis de l'autre côté, il y aurait le reste des activités d'EDF, les renouvelables éventuellement. Alors l'hydraulique, on ne sait pas où on le met.
Certains disent qu'on donne les activités qui sont rentables au privé et qu'on laisse les activités non rentables en créant une société publique.
C'est un risque. Certains y voient en effet le fait qu'en sanctuarisant le nucléaire dans une société publique, on va faire comme les Allemands quand ils ont sanctuarisé les centrales nucléaires ou les centrales à charbon en disant c'est une façon petit à petit de les faire disparaître. Alors ça, c'est un risque en effet, de considérer que c'est ce qu'on appelle en économie des actifs échoués, c'est-à-dire progressivement on va en sortir. Et puis en revanche, ce qui peut être peut-être plus facilement valorisable, le reste des activités de service, les renouvelables ou autres, on va le privatiser et à ce moment-là, on aurait un système où la partie privatisable risque d'être victime d'une offre publique d'achat, pas nécessairement amical.
Et on a vu que la question de la privatisation avec ADP a soulevé de plus en plus de résistance et de contestation. En l'occurrence, le dossier sur la possibilité de réouvrir à la concurrence les barrages hydroélectriques a été réouvert. Qu'est-ce que vous pensez de cette éventualité-là, Jacques Percevoix? Et est-ce qu'on est dans un schéma d'ouverture à la concurrence toujours plus grand et qui ne va pas s'arrêter?
Écoutez, la commission Champsaur, quand elle a mis en place l'ARENH, avait proposé qu'avec le nucléaire, on y mette l'hydraulique. Le gouvernement, à l'époque, a refusé. Il a eu tort, parce que si on y avait mis l'hydraulique avec le nucléaire, le problème serait réglé. Aujourd'hui, on aurait la même chose, si vous voulez. On aurait une sorte à l'époque, d'ailleurs, l'ARENH s'appelait ARB, accès régulé à la base. Et c'est parce qu'on a retiré l'hydraulique que c'est devenu l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la Commission européenne estime qu'il faut en effet ouvrir à la concurrence ces barrages. Simplement, ces barrages, ils ont été financés, je dirais, par les Français. Ouvrir à la concurrence quelque chose qui maintenant est relativement rentable, je dirais, c'est se priver d'un actif profitable. Moi, je suis contre cette ouverture à la concurrence des barrages.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Un grand merci, Jacques Percevoix. Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur le scandale de la fausse viande distribuée à des associations.
Absolument, nous apprenions en fin de semaine dernière que 780 tonnes de steaks hachés surgelés avaient été livrées à des associations caritatives pour être distribuées aux plus démunis de notre société. Le problème, c'est que de la viande, il n'était point question. En lieu et place du muscle de vache, on retrouvait pêle-mêle, peau, gras, amidon et soja. Rien qui n'ait l'apparence, la texture ou le goût d'une bonne pièce de bouillon. boucher. Ce qui n'avait donc de steak que le nom a commencé à être distribué au mois de juillet dernier. Des centaines de milliers d'unités de mixtures hachées livrées à la Croix-Rouge au Resto du Cœur, pardon, ou au Secours Populaire Français. Il a fallu attendre mars de cette année pour que les autorités sanitaires soient enfin alertées. Après plusieurs mois d'enquête, la direction des fraudes a finalement tranché, dénonçant une tromperie organisée. Dans le même mouvement, un coupable a été trouvé. Il s'agit de l'entreprise qui, au cours des mois passés, a écoulé ses produits auprès d'associations d'aide aux moins favorisées.
L'entreprise bretonne se serait ainsi fournie en Pologne, faisant peu de cas de la composition des steaks qu'elle revendait ensuite.
Oui, mais ce que montre un article du journal Marianne, c'est que l'entreprise dans les Côtes d'Armor est loin d'être la seule fautive. Ainsi, les 780 tonnes de faux steaks hachés ont en réalité été commandées par un organisme public rattaché au ministère de l'Agriculture appelé France Agrimaire. C'est non seulement cette institution qui a signé le chèque d'un montant de 5,2 millions d'euros, mais c'est surtout elle qui a rédigé le cahier des charges pour l'appel d'offres. Or, comme le rapporte Marianne, celui-ci ne mentionne qu'un seul critère d'achat, à savoir le prix du produit. Pour un peu plus de 5 millions d'euros, France Agrimaire comptait ainsi recevoir 1500 tonnes de steak haché, soit 3,5 euros le kilo de viande, presque 50% moins cher que les prix du marché. Mais outre que des prix aussi faibles auraient normalement dû alerter les autorités, ce qui est saisissant, c'est qu'aucun autre critère n'ait été mobilisé. Rien sur l'odeur, rien non plus sur la saveur, ni encore l'aspect des steaks hachés. En clair, qu'importe la qualité des produits distribués tant que cela ne coûte pas trop cher à la communauté. Une logique d'un cynisme incroyable, surtout quand on sait que les steaks étaient destinés à des associations d'aide aux plus démunis.
Mais comment se fait-il, Arjuna, que des signalements n'aient pas été effectués plus tôt ?
Eh bien, c'est justement sur cette épineuse question que s'est penché le journal Marianne pour tenter d'expliquer la survenance de tels dysfonctionnements. Il faut dire que France Agrimaire est normalement chargée de mener des contrôles en amont et en aval afin d'éviter que survienne ce type de situation. Or, justement, l'organisme public avait déjà été épinglé en 2017 par la Direction Générale de la Cohésion Sociale, pointant l'absence de transparence dans la passation des marchés publics et provoquant l'arrêt des financements européens. Deux ans plus tard, il semblerait que l'agence soit toujours en proie à ces vicissitudes.
Dès le début de l'année, des bénévoles et des équipes avaient pourtant signalé la présence de moisissures sur les steaks, entraînant une vérification de la composition des produits.
Oui, mais alors le laboratoire sollicité par les pouvoirs publics avait conclu à une conformité générale des produits, composition, origine animale, taux de protéines. Aucun problème n'avait semble-t-il été détecté. Une histoire somme toute assez anecdotique d'un pouvoir peu regardant et d'un commerçant peu scrupuleux. Mais cette nouvelle affaire de viande falsifiée nous interroge surtout sur ce que pourrait être l'avenir de l'alimentation dans un contexte d'augmentation de la population et de raréfaction des ressources. Un exemple de cynisme mêlé d'hypocrisie qui nous parle surtout d'un monde où le bon steak de bœuf serait réservé aux plus riches quand le reste de la population devrait se contenter d'une alimentation au rabais.
The plains down near Santa Fe, I met a cowboy right in the range one day, and as he jogged along, I heard him singing a most peculiar cowboy song. It was a ditty he learned in the city, a come-a-ta-ay-ay, get along. Get hip, little doggies, get along. Better be on your way, get along. Get hip, little doggies, and he trucked them on down the old fairway, singing his cow-cow boogie in the strangest way. Come a tie, come a tie, yip, tie, singing his cowboy song. He's just too much. He's got a knocked out western accent with a wild old touch. He was raised on local weed. He's what you call a swing half breed, singing his cow cow boogie in the strangest way. Come a tie, come a tie, yip, tie.
On se quitte avec Ella May Morse, Coco Boogie. Merci beaucoup Jacques Percebois de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Demain, c'est l'histoire de la fée électricité que nous retracerons en compagnie d'Alain Beltran et Gérard Beauvron. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.